Seigneur, mes chers confrères, chères sœurs, chers fidèles, c'est Monsieur l'abbé Laurence, directeur de l'Institut universitaire de Paris, qui va vous parler du bouddhisme.
Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, Excellences, chers confrères, mes chères sœurs, mesdames, messieurs. Ce matin, j'entendais comme vous avec beaucoup d'intérêt la communication du professeur Pasqualucci et cela m'a donné une idée pour l'exposé de cet après-midi. Il était temps. Monsieur le professeur Pasqualucci nous a parlé donc de cette unité du genre humain, unité profane, disait-il. Et il l'a fait évidemment en des termes généraux, puisqu'il n'envisageait pas l'œcuménisme sous un angle particulier, qu'il s'agisse du dialogue avec les protestants, ou, comme ce sera le cas cet après-midi, avec les religions non chrétiennes, le bouddhisme, le judaïsme, l'islam. Je me suis demandé s'il ne serait pas intéressant de reprendre son point de vue général et de l'appliquer plus particulièrement donc à notre sujet de cet après-midi. Je voudrais donc reprendre quelques expressions qu'il a employées ce matin et elles nous serviront de fil conducteur. Nous verrons si l'on peut vérifier, en particulier dans le cas du bouddhisme, ce que le professeur Pasqualucci disait de façon générale sur l'œcuménisme. Donc, une façon un petit peu vivante de présenter les choses. Si vous voulez dialectiser, vous pouvez dire, je ne sais pas, Pasqualucci contre Laurence, Paris contre Rome. Tout ce qui est utile et nécessaire pour secouer cette torpeur postprandiale va être utilisé. Parce que je sais bien qu'ici, c'est l'heure de la sieste et non pas vraiment celui des exposés. Alors, Monsieur Pasqualucci nous disait ce matin, anticipant un petit peu sur le propos de ce soir, on trouve au paragraphe 1 de Nostra Aetate, à notre époque où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni et où les relations entre les divers peuples augmentent. Donc c'est vrai, le propos liminaire de la déclaration Nostra Aetate qui concerne les rapports de l'Église et des religions non chrétiennes commence par cet aveu, cette profession de foi, si on peut dire. Il faut contribuer à cette unification du genre humain. Et le professeur Pasqualucci commentait « Vatican II envisage le processus d'unification du monde et l'unité qui s'ensuit comme des catégories pour l'interprétation de l'histoire, tout en les élevant au niveau des valeurs pour lesquelles l'Église doit s'engager. » Donc l'Église est là au service de cette unification et de l'unité qui doit en découler. Selon le Concile, le développement vers l'unité et l'unité en soi-même sont une réalité positive, bonne. Il faut s'en approprier et la perfectionner, donc faire sienne cette unité. Il faut accomplir cette tâche, coopérer à l'unité du genre humain et non plus à son salut, étant donné que le genre humain a été objectivement sauvé par le fait même de l'incarnation. Et avec quoi il faudra s'entendre? Est-ce que nous sommes d'accord, le professeur Pasqualucci et moi, sur cette question, à propos du bouddhisme, très spécifiquement? Cette rédemption donnée objectivement à tous aurait déjà créé l'unité du genre humain dans le Christ. Et une pareille unité dans le Christ, comment peut-elle s'accommoder avec l'unité du monde qui a été créée et vient d'être créée par le monde même, par les moyens du développement, du progrès et de la science? Car la dite unité, les propos sont forts, c'est pourquoi je les reprends, il y a même un qualificatif que je voudrais bien souligner. La dite unité est de soi-même profane. Elle est le résultat à quoi aboutit finalement une civilisation qui s'est proclamée ouvertement l'ennemi de toute religion, de la catholique en particulier. L'adjectif sur lequel je voudrais conclure cette introduction, employé donc par le professeur Pasqualucci ce matin, unité du monde qu'il n'hésite pas donc à qualifier de démoniaque. très fort. Est-ce qu'on a le droit de dire cela? Est-ce que c'est vrai? Eh bien, on va essayer de le voir avec l'exposé sur le bouddhisme. Comme vous l'avez entendu, c'est vrai, cette déclaration du Concile Vatican II qui considère de façon plus spécifique les relations de l'Église catholique et des religions non chrétiennes, donc la déclaration Nostra Aetate du 28 octobre 1965, part de cette nécessité de contribuer, au fond, à l'unité du genre humain, l'unité de l'humanité. Cette déclaration, j'en retiendrai surtout le numéro 2, puisque c'est dans ce numéro 2 que se trouve le paragraphe sur le bouddhisme. Vous ne l'avez pas sous les yeux, je vous en lis deux extraits. Je voudrais tout d'abord que vous vous rappeliez, si vous avez déjà eu connaissance de ce texte, que c'est un des textes qui, à la différence d'autres documents, d'autres déclarations du Concile, n'a quasiment pas de référence au magistère. Il n'y a que des références scripturaires. Cette remarque, elle est faite d'ailleurs par un religieux dont je m'inspirais, le père René Giraud, qui connaît bien les religions orientales, qui n'est pas suspect de traditionnalisme excessif, tant s'en faut, vous le verrez au fur et à mesure que j'exploiterai son analyse. Il dit, dans cet ouvrage donc paru chez Droguet et Ardan, qui s'intitule « Introduction aux religions orientales » en 1991, il dit ceci à la page 281. Ce texte est étonnamment novateur. Avant même de le lire, on peut se livrer à un test révélateur. Alors que tous les autres textes conciliaires accumulent les références aux documents de la tradition, conciles, ouvrages des pères de l'Église, encycliques, celui-ci a une exception près, et de fait il n'y a qu'une seule note, c'est une lettre de Grégoire VII au roi de Mauritanie faisant allusion à la foi des musulmans. Cette déclaration ne cite, ne fait référence qu'à la Bible. Comme s'il voulait, dit le père Giraud, comme s'il voulait montrer son intention de faire du neuf. Oui, du neuf. Autre signe remarquable, et c'est ce que nous allons voir tout de suite en nous attachant à la lecture de ces deux, du paragraphe numéro 2, dans lequel je vais retirer juste deux paragraphes aussi, la déclaration parle des religions d'une manière uniquement positive, ne mettant en relief que les valeurs, entre guillemets, dans lesquelles elle se reconnaît, sans la moindre formule critique ou dépréciative. Et voici ce qui est dit à propos du bouddhisme. Dans le bouddhisme, selon ses formes variées, l'insuffisance de ce monde changeant est reconnue, et on enseigne une voie par laquelle les hommes, avec un cœur dévot et confiant, pourront soit acquérir l'état de libération parfaite, soit atteindre l'illumination suprême par leurs propres efforts ou par un secours venu d'en haut. Point. C'est tout. Pas de critique, pas de remarque, pas de réserve. Ensuite, le père Giraud dit « Cette déclaration se rend bien compte que la théologie n'est pas encore préparée à éclairer la rencontre entre les religions orientales et le catholicisme. C'est pourquoi, dit-il, la déclaration laisse le champ libre à l'imagination chrétienne des théologiens et aux initiatives tâtonnantes des artisans du dialogue concret à la base. Donc, libre cours à l'imagination des théologiens et aux initiatives tâtonnantes des artisans du dialogue concret à la base. Elle ne fait, conclut-il, cette déclaration, elle ne fait que préconiser une attitude générale. Donc pas de prise de position doctrinale, pas de remarques, pas de réserves, pas de critiques, une attitude générale et, encore une fois, carte blanche à l'imagination chrétienne et aux initiatives tâtonnantes. Voici effectivement le paragraphe en question. L'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre. ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu'elle-même tient et propose, cependant apporte souvent un rayon de la vérité, avec un grand V, qui illumine tous les hommes. Toutefois, elle annonce, et elle est tenue d'annoncer sans cesse, que le Christ est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse, dans lequel Dieu sait réconcilier toutes choses. Et je poursuis, parce que le père Giraud, lui, ne va pas au-delà. J'ai la déclaration in extenso sous les yeux, je termine ce paragraphe numéro 2. Elle exhorte donc l'Église, ses fils, elle les exhorte pour que, avec prudence et charité, par le dialogue et par la collaboration avec ceux qui suivent d'autres religions, et tout en témoignant de la foi et de la vie chrétienne, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les valeurs spirituelles, morales et socioculturelles qui se trouvent en eux. Voilà ce texte sur lequel donc nous allons travailler cet après-midi. Le père Giraud dit, on ne propose qu'une attitude, pas de critique, pas de réserve, pas de prise de position doctrinale, c'est vrai. Que du positif, on reconnaît des valeurs. Non seulement, vous voyez comme moi, on les reconnaît, c'est le début de ce paragraphe, l'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions, elle considère avec un respect sincère, donc non seulement il y a cette reconnaissance de valeur, où l'on voit un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes, et puis on invite les catholiques à reconnaître à leur tour, à préserver même, à faire progresser, c'est plus, n'est-ce pas ? Reconnaître, c'est peut-être une reconnaissance intellectuelle, préserver, là c'est une attitude pratique très positive, et même faire progresser les valeurs spirituelles, morales et socioculturelles qui se trouvent donc là, chez ces gens qui suivent d'autres religions que la religion catholique. Le texte est extrêmement intéressant. Je dirais tout de même qu'il provoque en principe un certain malaise chez un lecteur catholique. Le père Giraud ne le voit pas, lui, il voit simplement cette attitude positive. Sur le plan logique, j'allais dire même simplement grammatical, au niveau le plus humble, vous avez, comme moi, repéré ces hésitations. Cette phrase est très alambiquée. Il y a des concessions, mais il y a des réserves. Ce ne sont pas des réserves doctrinales, non, elles sont là simplement dans la structure grammaticale de la phrase. Regardez comme moi, ce que l'on concède, ensuite on le reprend. Mais c'est dans une espèce de valse hésitation, un peu étrange. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Bon, ça, c'est affirmé. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir, ses règles et ses doctrines. Qui, quoiqu'elle diffère en beaucoup de points de ce qu'elle-même tient et propose. Cependant, donc vous avez quoique. On est obligé de reconnaître qu'il y a une différence. Mais une différence, une opposition, une contradiction, non. On dit simplement, elle diffère beaucoup, une grande différence. Cependant, bien qu'elle diffère, cependant, donc bien qu'elle diffère, malgré tout, elles apportent un rayon de la vérité qui illumine tout homme. Et, attitude pratique, toutefois, elle doit annoncer évidemment que Jésus-Christ est la voie, la vérité et la vie. Cependant, elle va. Et vous voyez, n'est-ce pas, il y a des reprises permanentes. Elle exhorte ses fils, avec prudence, charité, par le dialogue, la collaboration, tout en témoignant de la foi, de la vie chrétienne, et bien qu'ils reconnaissent quand même, malgré tout, qu'ils préservent quand même, malgré tout, et fassent progresser quand même, malgré tout, les valeurs spirituelles, morales et socioculturelles qui se trouvent en eux. Alors, d'où vient ce malaise ? Déjà parce que la phrase est construite de façon étrange, on sent un embarras, mais aussi parce que, me semble-t-il, il y a là une philosophie sous-jacente, implicite, qu'il nous faut maintenant découvrir, mettre à nu. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? D'ailleurs, toutes ces affirmations et toutes les nuances et les réserves qu'on essaye d'y apporter, il y a cette idée que, dans une religion non chrétienne, il y a des vérités, il y a des éléments de vérité, ce que l'on nous disait ce matin, des éléments de sanctification, des valeurs aussi. Alors, on ne peut pas les rejeter, on ne peut pas les refuser, les récuser, c'est ce que dit d'ailleurs le début du paragraphe. L'Église ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle les considère avec un respect sincère. On vous dit donc, s'il y a des vérités, on ne peut pas les écarter. Et là, je reprendrai ce que disait ce matin le père Pierre-Marie. Il nous disait, ces vérités sont des vérités partielles, sont des vérités même qui vont fonctionner de façon partiale. Pourquoi ? Parce qu'elles sont, informées par un esprit nouveau, qui est l'esprit de l'erreur, qui n'est plus l'esprit de la vérité catholique. Cette remarque du père Pierre-Marie est, si je puis dire, un petit peu l'écho d'une remarque que l'on trouve sous la plume du philosophe français Louis Junier. Louis Junier disait, lorsque nous affirmons que nous avons la vérité, nous ne disons pas que tout est faux dans les doctrines adverses. Les théologiens catholiques ne veulent nullement nier qu'il y ait des vérités dans le protestantisme, le judaïsme, le brahmanisme. Mais la question qui se pose est tout autre. Il n'est pas question de savoir s'il y a des vérités. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces vérités sont à l'aise, en liberté, chez elles, dans les doctrines adverses ? Or, disait Louis Junier, ce que nous pensons, c'est que ces vérités n'y ont qu'un rôle partiel, fragmentaire, incomplet. Et cette remarque est très importante. Pourquoi ? Ces vérités sont enrobées dans des erreurs flagrantes, qui les gauchissent, qui en faussent la véritable portée. Elles sont déviées, n'est-ce pas ? Ces vérités, n'est-ce pas ? Elles sont dévoyées, exactement. Elles restent une vérité, mais dans un système faux. Et j'irai un petit peu plus loin encore que ce que disait Louis Junier. Non seulement ces vérités sont dévoyées, tout en restant une vérité, elles sont dévoyées, mais elles sont instrumentalisées, elles sont mises au service d'une erreur. Ces vérités, n'est-ce pas, sont des instruments au service d'une erreur. Je vais vous donner deux ou trois exemples et vous allez tout de suite comprendre. En effet, lorsque l'on se prépare à fêter l'an 2000, lorsque l'on invite des juifs, lorsque l'on invite des musulmans sur le mont Sinaï, c'est avec l'idée que nous avons des valeurs en commun, que nous avons la reconnaissance d'une même vérité. Nous sommes d'accord sur une vérité, laquelle ? Le monothéisme. Ils sont monothéistes, nous sommes monothéistes, donc nous sommes faits pour nous entendre. Le monothéisme, c'est une vérité. On ne peut pas récuser cette vérité. Donc, entendons-nous. Mais voilà ce que disait Junier. Le judaïsme et l'islamisme insistent toujours sur l'unité de Dieu. C'est vrai, c'est une vérité. Mais ils le font intentionnellement, d'une manière unilatérale, qui exclut le dogme de la Trinité. Donc ils se servent, ils instrumentalisent le monothéisme contre la Trinité. Luther, le protestantisme, insiste sur le fait que c'est la grâce seule qui justifie. Et à l'état brut, cette formule est vraie. Mais Luther dit cela pour exclure l'économie des sacrements. C'est la grâce seule, oui, mais contre l'économie des sacrements. Alors, ça ne va plus. Donc, on pourra dire que dans une doctrine adverse, dans une religion chrétienne ou non chrétienne, mais une religion fausse, on pourra dire qu'il y a des vérités. Tout n'est pas faux en détail. Mais la question importante, c'est de voir quel est l'esprit qui inspire cette religion. L'esprit qui en infecte tout, le père Pierre-Marie disait, qui informe tout. Si ces vérités partielles sont recevables et assimilables, c'est la question qu'il faut se poser à cet endroit de l'exposé, évidemment, c'est à condition, bien sûr, d'être arraché à ces fausses doctrines, donc il va falloir critiquer l'erreur, et il faut les repenser dans une autre perspective. Mais il ne faut pas les laisser là, instrument, n'est-ce pas, vérité, instrument au service d'une erreur. Eh bien, la question qui se pose donc maintenant, c'est de savoir s'il y a dans le bouddhisme, en reprenant le paragraphe que je vous ai lu, il y a des valeurs, des vérités qui étant arrachés à un système faux, peuvent être repensés de façon saine. Est-ce que l'on peut rejeter le système et trouver des choses vraies et saintes dans le bouddhisme et considérer alors ces choses vraies et saintes avec un respect sincère? Donc, je passe au deuxième point de cet exposé, le bouddhisme lui-même. Vous avez remarqué comme moi, au fond, il y a deux valeurs, si j'ose dire, ou deux vérités qui sont reconnues par la déclaration Nostra Aetate. Le bouddhisme reconnaît l'insuffisance radicale de ce monde changeant. Et ça, ça doit être une bonne chose, c'est vrai. Ce monde changeant, contingent, dirions-nous, et radicalement insatisfaisant, doit nous plonger dans une inquiétude. Et on peut faire là peut-être des rapprochements, peut-être dire, saint Augustin, notre cœur est inquiet, puisqu'il ne repose pas encore en vous, et que vous l'avez créé pour vous. Et puis, il y a ce deuxième aspect, le bouddhisme enseigne une voie par laquelle les hommes, avec un cœur dévot et confiant, pourront soit acquérir l'état de libération parfaite, soit atteindre l'illumination suprême par leurs propres efforts, par un secours venu. Donc, insuffisance radicale du monde changeant, et puis ensuite une voie qui doit permettre de se libérer, d'être illuminé, soit par les efforts humains, soit par un secours venu d'en haut. Ici, bien sûr, il faut nous poser la question de quelle nature ce secours qui n'est pas d'ordre naturel, puisqu'il ne relève pas des efforts humains. Il vient d'en haut. De quelle nature ce secours supranaturel? Alors, entrons dans ces deux points. Je reprends l'exposé du père Giraud. Il y a dans le bouddhisme quatre nobles vérités. Je pense qu'on peut en rester aux deux que je vais vous citer, qui expriment et cette insatisfaction, cette souffrance face à un monde changeant, et puis cette illumination. L'insatisfaction, c'est la première noble vérité, ce qu'on appelle dukkha. Je ne prononce pas très très bien la langue du Dalai Lama, non pas par prudence, parce que en cette période de mutation, monsieur le supérieur général, pourriez-vous dire, mais s'il parle si bien, pourquoi pas une fondation au Tibet? Non, c'est parce que vraiment, je ne parle pas cette langue. Ces précautions étant prises, la première noble vérité, dukkha, D-U-2-K-H-A. Alors le père Giraud dit, ça signifie bien la souffrance, la douleur. Plus encore, plus profondément, c'est l'imperfection, la finitude, la contingence, la vanité, l'impermanence, la non-substantialité. Et il y a trois aspects de dukkha, la souffrance ordinaire, bon, la souffrance physique, la maladie, la mort, les séparations, mais aussi, plus profondément, le fait d'être plongé dans un perpétuel changement. Rien n'est permanent, rien n'est éternel, malgré nos désirs de point de repère, nos vains essais d'imposer des lois. Et plus profondément encore, cet état, n'est-ce pas, de dukkha, c'est le fait que nous soyons conditionnés. Le fait que nous ayons à subir comme cela des ensembles, des agrégats, la matière, les sensations, les perceptions, les formations mentales, la conscience elle-même, tout ça est un conditionnement dont le bouddhiste souffre. À la différence de l'hindouisme qui parle d'un ego, d'une âme, d'un soi, il n'y a pas pour le bouddhisme de conscience qui transmigrerait comme si elle existait indépendamment des conditions qui lui donnent naissance. Simplement, lorsque les cinq agrégats travaillent ensemble, nous formons l'idée d'un moi. Mais ce n'est qu'une illusion et on en souffre, le fait de pouvoir dire « moi, je », d'être comme ça, ainsi, conditionné par ces cinq agrégats. Ce que nous appelons le moi n'est qu'une formation mentale, l'une des 52 qui composent le quatrième agrégat. c'est la doctrine du non-soi. Donc voilà cette souffrance. Évidemment, c'est un petit peu étrange pour une mentalité occidentale, parce qu'au fond, la souffrance, c'est d'être un sujet, c'est d'être une personne, d'avoir une existence même. Nous reviendrons sur ça dans la partie critique. La troisième noble vérité, c'est le nirvana. Donc, justement, cette libération, cette illumination. Ici, le père Giraud dit, c'est la cessation de dukkha par anéantissement complet du désir, de tout désir, y compris celui d'exister. Un esprit non prévenu peut encore faire un autre contresens au sujet de nirvana. Nirvana n'est pas l'annihilation de soi, il n'y a pas de soi. Il s'agit seulement de briser la chaîne des conditionnements qui aboutissent à la formation de la fausse idée d'un soi. Ça n'est pas vraiment un substantif, le nirvana, ça serait plutôt un adjectif, dit-il, une manière d'être qui serait vivre en état de nirvana. Et là, vous avez une description que le père Giraud qualifie lui-même, et je lui laisse la responsabilité de cet adjectif, d'idyllique. Il est extasié devant cette description du nirvana, fait par, justement, un mystique bouddhiste. Celui qui a réalisé la vérité, le nirvana, est l'être le plus heureux du monde. Il est libéré de tous les complexes, de toutes les obsessions, des tracas, des difficultés, des problèmes qui tourmentent les autres. Sa santé mentale est parfaite. Il ne regrette pas le passé, il ne se préoccupe pas de l'avenir, il vit dans l'instant présent. Il apprécie donc les choses et en jouit dans le sens le plus pur, sans aucune projection de son moi. Il est joyeux, il exulte, jouissant de la vie pure, ses facultés satisfaites, libéré de l'anxiété, serein et paisible. Il est libre de désirs égoïstes, de haine, d'ignorance, de vanité, d'orgueil, de tous empêchements. Il est pur et doux, plein d'un amour universel, de compassion, de bonté, de sympathie, de compréhension et de tolérance. Il rend service aux autres de la manière la plus pure, car il n'a pas de pensée pour lui-même, ne cherchant aucun gain, n'accumulant rien, même les biens spirituels, parce qu'il est libéré de l'illusion du soi et de la soif de devenir, donc justement de ce dukkha dont nous parlions. Et le père Giraud dit, évidemment, c'est une description idyllique, nous pouvons retrouver dans cette description une correspondance secrète avec ce que reflète la liberté spirituelle des grands saints du christianisme. Donc voilà des valeurs communes. On peut se dire effectivement que tous les grands saints ont souffert de la vanité de ce monde. Eh bien, c'est dukkha. Et ils ont tous cherché justement cette libération parfaite et ils ont atteint cette illumination et ils sont dans cet état-là. C'est pourquoi il y a cette correspondance secrète avec la liberté spirituelle des grands saints du christianisme. À cet endroit de l'exposé, pour vous réveiller quelque peu, je vous rappelle que notre question de départ, c'est est-ce que nous contribuons en favorisant, n'est-ce pas, le maintien, non seulement la reconnaissance, mais le maintien, la préservation, et plus encore le développement, la progression de ces valeurs bouddhistes, est-ce que nous contribuons à l'unité de l'humanité ? Nous sommes donc toujours à nous demander si l'exposé de ce matin avait quelque valeur. La réponse ne peut pas se faire sans un petit détour. Parce que, voyez-vous, le bouddhisme, on a souvent tendance à le dire, le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie, c'est vrai. Mais il serait plus vrai encore de dire, ça n'est même pas une philosophie. Ça n'est pas une religion, ça c'est certain, ça n'est pas une philosophie. Pourquoi ? Parce que, et c'est le père Giraud lui-même qui le dit, c'est avant tout une pratique. Ça n'est pas une spéculation du tout. Voici ce qu'il dit ici, à la page 141. Nous sommes un peu perplexes. Où cela débouche-t-il, se demande, n'y a-t-il pas un au-delà ? Si le bouddhisme est un athéisme, pourquoi ne pas le dire tout de suite ? S'il y a une ouverture sur Dieu, pourquoi le cacher ? La question se pose tout à fait autrement. Disons avec notre langage que le Bouddha a choisi de se placer délibérément au niveau existentiel, empirique, pragmatique. Il veut seulement montrer la voie sans perdre de temps, à scruter les questions métaphysiques. Alors nous voilà bien embarrassés parce que comment entamer un dialogue sérieux, comment ne pas en rester aux apparences? Comment savoir si ces ressemblances ou si ces correspondances secrètes que le père Giraud voit, comment savoir si elles ont un fondement objectif, si l'on ne va pas justement jusqu'au soubassement métaphysique, si l'on ne va pas chercher les présupposés philosophiques? Or, le père Giraud dit que ça ne sert à rien parce que, de fait, le bouddhisme se désintéresse purement et simplement de ce point de vue d'ordre métaphysique. Le père Giraud trouve là d'ailleurs des échos dans d'autres ouvrages, en particulier, ça a été, il faut reconnaître, l'aveu à plusieurs reprises de Jacques Maritain sur le bouddhisme. Il disait, soit dans son introduction à la philosophie bergsonienne, soit dans son introduction à la philosophie tout court, il dit bien, le bouddhisme, ça n'est pas un système spéculatif. Il disait ceci, par exemple, dans son introduction à la philosophie bergsonienne, la préface parue donc en 48. Le bouddhisme s'est contenté du concept philosophique à l'état le moins indifférencié. Dès l'instant qu'elle pensait, cette philosophie entre guillemets, elle usait du verbe mental, mais en le laissant ou en le voulant aussi informe que possible. En ce sens, mais en ce sens seulement, on peut dire que sa tragédie a été de vouloir l'intellectualité sans le verbe. Dédaignant le verbe humain, bon pour les Grecs, ignorant le verbe divin révélé au fils d'Abraham, elle a suspendu son âme à une sagesse éternelle qui n'est pas le logos incréé, et elle a suspendu son âme à une sagesse humaine qui n'est pas la raison. Et comme il n'y a pas d'autre sagesse que celle-ci, le logos incréé, et celle-là, la raison humaine, alors ou bien elle a suivi l'une et l'autre sans les connaître, ou bien elle a décliné de la sagesse. Donc nous sommes dans une difficulté. Pour cela, il faut chercher bien sûr une voie de sortie. Et je crois qu'il faut là remonter alors à la racine du bouddhisme. Vous savez que le bouddhisme est une hérésie à l'égard du brahmanisme. Et si l'on creuse à fond le bouddhisme, on retrouve bien sûr cette racine hindouiste. C'est ce que dit d'ailleurs le père Giraud, cette fois-ci à la page 183. Il dit, chez les initiés les plus formés, n'est-ce pas, dans le bouddhisme, on rejoint l'intuition des courants de l'hindouisme, Atman et Brahman. Alors, nous allons faire, si vous voulez bien, une petite excursion dans cette direction-là. Atman et Brahman, qu'est-ce que ça signifie? Dans l'hindouisme, où là, il y a, semble-t-il, une réflexion, il y a une tentative de spéculation. On va essayer de voir qu'est-ce que cela signifie. Eh bien, le Brahman, c'est l'absolu, dans sa réalité objective, concrète, universelle. Tandis que l'Atman, c'est l'esprit. Eh bien, le bouddhisme dit, le Brahman, c'est l'Atman. Les hindouistes disent la même chose, c'est-à-dire donc qu'il y a identité. Il doit y avoir une rencontre dans le fond de la conscience et de la subjectivité de tout homme, une rencontre de l'absolu, Brahman, la réalité objective, et puis l'esprit. Ils doivent se rencontrer, ils doivent se retrouver. On vous donne ceci, cet Atman dans mon cœur, c'est Brahman lui-même. Ce qui est l'essence pure, cela est l'âme du monde entier, Brahman. Cela est la réalité, cela c'est l'Atman, l'esprit, la conscience. Toi tu l'es, je suis Brahman. Donc vous voyez, une identification, c'est ce qu'on appelle un monisme, n'est-ce pas ? Et la négation, n'est-ce pas, de la dualité entre le moi et le non-moi, entre le sujet et l'objet. Alors, cette réflexion, donc emprunté à l'hindouisme, et qui est à la racine du bouddhisme, inspire des commentaires à un religieux qui a vécu d'ailleurs à Rome, qui était le fils de M. Salleron, le père Joseph de Sainte-Marie. Et je vais emprunter quelques réflexions à une étude qu'il a consacrée à la spiritualité orientale, à l'intériorité, dit-il, chrétienne et l'intériorité orientale, donc une comparaison. C'était un article paru dans la Pensée catholique, le numéro 177. Il dit ici, ce qu'il y a de frappant, c'est que le bouddhisme, l'hindouisme, au fond, donc, vise à ce monisme, c'est-à-dire à la négation de cette dualité. Vous avez vu, comme moi, le père Giraud dire le dukkha, cette souffrance, c'est le fait d'être. Mais le père de Sainte-Marie dira, c'est le fait d'être selon la nature humaine. C'est-à-dire que la souffrance, c'est la condition humaine. Et ce à quoi visent le bouddhisme et l'hindouisme, c'est à s'affranchir de la condition humaine, dans un effort prométhéen, dans un effort, n'est-ce pas, qui est là tout à fait négateur du statut de créature. Le père de Sainte-Marie donne là quelques aperçus, me semble-t-il, intéressants. Vous trouverez cela dans l'article de la Pensée catholique, ici à la page 39. On ne peut nier, on est contraint même parfois d'admirer dans cette pensée orientale un sens très fort de la transcendance de l'être, ainsi que de la relation de l'esprit humain. Donc, toujours Brahman et Atman. Mais d'autre part, on est obligé de reconnaître une nette tendance de la part de l'homme à refuser la condition qui lui est propre. Cette dukkha, à l'origine, c'est bien le refus d'une condition qui est propre. D'où l'ambiguïté qui grève dès le départ ce que nous pourrions appeler la sotériologie, la doctrine du salut, chez les orientaux. Si nous admirons en elle l'extraordinaire effort spirituel qui s'y manifeste, nous devons cependant reconnaître qu'un tel effort représente de la part de l'homme une tentative pour sortir non seulement de ce que comporte de pénible sa condition historique et existentielle, ce qu'on peut appeler justement, si vous voulez, le monde changeant, toujours insatisfaisant, vain, vide, mais ça ne s'arrête pas là. Non seulement sortir de ce que comporte de pénible sa condition historique et existentielle, mais même de ce qui est sa constitution ontologique essentielle. L'homme y refuse sa temporalité, il y refuse sa matérialité avec toutes les limitations qu'elle comporte pour être son être même. Les meilleurs commentateurs des systèmes que nous venons maintenant d'examiner, dit le père de Sainte-Marie, reconnaissent effectivement que la tendance de toutes ces philosophies, de cette spiritualité orientale, est de permettre à l'homme de passer de sa propre condition à celle de surhomme, voire même à celle de l'homme-dieu. Un orientaliste français très connu, Olivier Lacombe, dit à propos du Vedanta, le point de départ empirique pour l'homme étant son humanité, souffrance, dukkha, l'œuvre de salut est donc bien la réalisation du surhomme par l'homme. Et Mircea Eliade, à propos du yoga, disait cette méthode expérimentale de réaliser l'homme-dieu, qu'est le yoga. Donc, le premier point, donc nous sommes obligés de le voir de façon critique, et grâce au Père Sainte-Marie, c'est assez facile. Donc, voilà ce que c'est que cette souffrance. Maintenant, la libération. On nous explique, donc, dans un premier rapport, une ébauche, on peut se dire, évidemment, ça peut donner l'impression qu'il y a des ressemblances secrètes, très bien, des échos entre le christianisme et le... Mais là, nous voyons bien que jamais, évidemment, dans l'affirmation de la vanité de ce monde changeant, un mystique chrétien ne verra l'occasion de transgresser la nature humaine et de nier le statut de créature, de Dieu. Ce n'est pas possible. Cela, nous ne le verrions pas. Ultimement, d'ailleurs, dit le Père Sainte-Marie, à la page 45, c'est véritablement ce monisme radical qui revient toujours et qui s'oppose à cette métaphysique de la participation et de l'analogie qui fonde philosophiquement la théologie catholique, théologie de la création. Si l'on a une bonne théologie, elle repose sur une bonne métaphysique, et là on peut affirmer effectivement qu'il y a l'ens ac nécessaire, l'ens abalio contingent, donc insatisfaisant. Mais ici il n'y a pas cela, parce que d'ailleurs Olivier Lacombe le dit, il n'y a pas chez les orientaux, parce que leur philosophie est très imprécise, très informe, il n'y a pas de distinction même essence-existence, il n'y a pas de distinction évidemment entre l'ens ac et l'ens abalio. Le père de Sainte-Marie donc peut conclure à juste titre, le terme suprême de la voie orientale est un isolement maximal du moi réduit à un pur soi, ce mystérieux soi absolu étant identifié avec un infini indéterminé. Et là vous comprenez pourquoi il faut que la conscience s'identifie à Brahman, n'est-ce pas, parce qu'elle a... qui est à ce moment-là une conscience universelle, enfin, on dirait dans le vocabulaire du New Age, océanique, cosmique. Tandis que le terme du christianisme, lui, sera de fait, en vertu de la rédemption opérée par le Christ, une communion, non pas cette disparition dans un infini indéterminé. Non, il y a là une communion, dans une présence réciproque, Dieu en nous et nous en Dieu. Il est à remarquer dans cette nécessité rigoureuse qui fait découler la fin des principes que la personnalité de Dieu et celle de l'homme se sauvent ou se perdent ensemble, métaphysiquement parlant, dans le cas de l'hindouisme. Bien, passons alors au deuxième aspect, c'est bien celui du nirvana, c'est-à-dire donc de cette libération. Là, ici aussi, une première vue un petit peu superficielle peut donner l'impression qu'il y a des ressemblances, des harmoniques, dirait-on de façon un petit peu poétique, entre l'Orient et l'Occident. Alors creusons un petit peu, en passant comme nous l'avons fait par l'hindouisme, qui est un petit peu plus consistant, un peu moins indigent sur le plan métaphysique, sur le plan spéculatif. Que nous dit le père de Sainte-Marie, justement, sur ce nirvana ? On vous dit dans Nostra Aetate qu'il s'agit d'une libération, alors c'est intéressant, libération, illumination, soit par des efforts propres à l'homme, soit par des secours venus d'en haut. Eh bien, le Père de Sainte-Marie est tout à fait d'accord. Il y a certainement des efforts humains, il y a un côté très naturel, voire naturaliste, et puis il y a aussi un secours qui n'est pas proprement humain. Il y a un secours qui est supranaturel. Et il faut quand même déterminer la nature, vous disais-je, de cette aide supranaturelle. Le Père Sainte-Marie y va avec beaucoup de précautions, sans exagération aucune. Il dit cependant, libération, non. Non, pas libération, mais plutôt aliénation. Il y a, semble-t-il, dans un premier temps, effectivement, une volonté d'épanouissement, de réalisation, si vous voulez, de la personne, mais ultimement, cela revient à une aliénation, c'est-à-dire très précisément à une prise de possession par un autre. Mais je vous sens sceptique, donc je vais vous lire la page 41 que vous me réclamez. D'abord, il y a sans aucun doute dans ces états d'illumination et de libération, il y a des pouvoirs étonnants. C'est là en effet que l'homme acquiert les pouvoirs miraculeux, vision, locution, lévitation, connaissance des pensées du passé, qui font du yogin un homme-dieu, toujours cette constante, aux yeux des autres hommes. Et il faudrait aussi parler des systèmes dans lesquels ces pouvoirs sont recherchés pour eux-mêmes ou comme instruments de la conquête du monde. Mais même en laissant de côté la question du caractère naturel, ou, alors il va employer le terme, bien sûr, que vous avez sur les lèvres tous depuis le début, la question du caractère naturel ou préternaturel de tels pouvoirs, dont la réalité est un fait indéniable, il reste à se demander ce que sont ces profondeurs dans lesquelles s'abîme le yogin au stade ultime auquel il parvient, et dans lequel, affirme-t-il, il perd jusqu'à la conscience de sa propre personnalité. La réponse que nous laisse entrevoir ce que nous avons exposé jusqu'ici
ne va pas dans le sens d'une libération, mais plutôt dans le sens d'une totale aliénation, c'est-à-dire prise de possession par un autre, alienus, un étranger. Et cet aspect initiatique ne doit pas nous échapper, c'est ce que dit le Père de Sainte-Marie à la page 44, le rôle initiatique, le rôle très important, n'est-ce pas, du gourou. On ne devient pas adepte, n'est-ce pas, de ces philosophies, de ces spiritualités, sans l'influence très marquée d'un gourou. Le concept d'initiation et d'influence spirituelle prennent ici tout leur sens. On n'apprend pas le yoga seul, il faut un maître, le gourou. Le rapport maître-disciple est donc un rapport initiateur-initié. Et pour en finir avec ce point, à la page 48-49, ce qui me semble le plus intéressant. Première impression que l'on éprouve, lorsqu'on ne connaît pas très très bien ces systèmes, une certaine ressemblance. Un effort de rentrer en soi qui caractérise les disciplines spirituelles orientales et chrétiennes. Dans les deux cas, en effet, on passe d'une activité dans laquelle domine l'effort de l'homme à une passivité fondée sur le fait que désormais l'homme agit sous l'influence de forces déterminantes qui jaillissent en lui, dans le fond de son être, d'au-delà de lui. On se dit, ben, c'est ce que faisait le père Giraud, il y a là une ressemblance secrète avec la liberté spirituelle des mystiques chrétiens. Cependant, cette impressionnante ressemblance pose le problème de la nature ultime des techniques orientales. Ce serait une profonde erreur de comprendre l'effort d'intériorisation de ces dernières comme une tentative purement subjective. Il est vrai qu'au départ, c'est le désir de la réalisation du moi propre qui l'anime. Mais à un certain moment, ce moi se retire en quelque sorte. Et le gourou est là pour veiller à ce qu'il ne se dérobe pas devant un soi qui se réalise lui-même à travers la psyché du moi initial, celui-ci perdant toute personnalité propre. Alors la question qui se pose, qui est ce soi devant lequel le moi s'efface. Alors le Père de Sainte-Marie esquisse une solution, une réponse. Le mystique chrétien sait dire le nom de son Dieu. Il sait que c'est à l'action gratuite et puissante de son esprit d'amour qu'il doit son élévation, si vous voulez, sa libération, son illumination. Il la doit à l'union avec le Christ dans son Église, avec la Vierge Marie, tous les saints. À la même question, la mystique orientale ne répond pas. Les explications qu'elle donne sont métaphysiquement contradictoires, psychologiquement obscures et insuffisantes. Pour cette raison, il nous paraît impossible de voir dans les techniques ici examinées une éventuelle influence cachée de l'Esprit Saint. Il y a ici trop d'obscurité, trop peu d'amour pour que l'on puisse parler de lui. Que se passe-t-il donc dans les états ultimes auxquels conduisent ces techniques de l'intériorité ? Telle est, avec celle qui se pose au sujet de l'origine des pouvoirs qui s'y manifestent, la question décisive qui reste ouverte. Une réponse positive dans le sens chrétien étant, à notre avis, exclue. Suffira-t-il de parler alors de force cosmique, d'énergie encore inconnue de l'esprit humain, d'inconscient collectif ? Cela semble difficile à admettre. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas se prononcer avec certitude aussi longtemps qu'on n'aura pas étudié une autre réponse possible, celle qui verrait ici une intervention de celui que le Christ lui-même a appelé, le père du mensonge, et aussi l'homicide, et dont la manière propre de tenter l'homme depuis l'origine des temps, Genèse chapitre 3, est de lui proposer d'être comme Dieu sans Dieu, en recourant aux secrets de la nature, aux techniques respiratoires et aux postures qui sont souvent des impostures. Alors, concluons. Et je reviens à la question que nous a posée ce matin le professeur Pasqualucci. On ne pourra pas faire, comme indiqué le père Pierre-Marie, une recherche des vestiges, n'est-ce pas ? Parce que nous n'avons pas dans le bouddhisme, affaire à une religion partiellement vraie dans la mesure où elle s'écarte du christianisme. Non. Là, c'est bien une religion non chrétienne avec la négation d'un Dieu personnel. Alors, qu'est-ce que nous pouvons voir? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses vérités? Nous pourrions récupérer. Valeurs, encore une fois, dont je tiens à vous dire que Nostra Aetate nous fait un devoir de les reconnaître, de les préserver, de les faire progresser, puisque ce sont des valeurs spirituelles, morales et socioculturelles. Si vraiment la première valeur, c'est-à-dire la reconnaissance de la vanité de ce monde, n'est que l'expression cachée, larvée, d'un monisme négateur de la condition humaine et affirmant au fond une volonté de divinisation de l'homme, si la deuxième vérité, c'est-à-dire la voie de la libération et de l'illumination, revient à ce que nous dit le Père de Sainte-Marie, c'est-à-dire au fond une aliénation, c'est-à-dire la prise de possession d'un autre, qu'est-ce qui se passe? On s'entend quoi? Sur des mots. Mais derrière les mots, quelle réalité? On se dira bien sûr qu'il y a là des moyens qui sont utilisés, mais pour quelle fin? Où va-t-on avec cela? Utiliser des moyens naturels, profanes, pour atteindre quelle finalité, quel objectif? Est-ce que l'on peut, comme disait Louis Junier, reprendre ces valeurs, les repenser? Il disait même, j'avais exclu le mot, il disait, s'il y a des vérités dans les systèmes opposés au système catholique, s'il y a des valeurs dans les religions autres que le catholicisme, il faudrait, dit-il, ces vérités, les recevoir, les assimiler, à condition de les arracher à ces fausses doctrines, donc les empêcher d'être les instruments, n'est-ce pas, d'un système faux. Et, disait-il, les baptiser pour les repenser dans une autre perspective. Mais ici, ça n'est pas possible. Ou alors, je ne retiendrai de la cérémonie du baptême qu'une seule partie. Ça n'est pas vraiment le baptême, ici, c'est plutôt l'exorcisme qui doit être envisagé. Ou, au fond, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse du professeur Pasqualucci dans le cadre particulier de cette étude sur le bouddhisme plus spécifiquement. C'est vrai que la démarche œcuménique actuelle consiste à instrumentaliser, c'est-à-dire à transformer, n'est-ce pas, des moyens profanes pour arriver à cette unité qui n'est pas une unité reposant sur la charité, évidemment. C'est bien l'unité dont parlait le professeur Pasqualucci, une unité tout à fait humaine, mondaine, profane. Et alors vous avez employé ce terme un peu fort, démoniaque. Ben, dans le cas du bouddhisme, vous avez raison. C'est tout à fait la question qu'on peut et qu'on doit se poser. Je conclus donc en disant, il n'y a pas de valeur à repenser, il y a certainement de fausses valeurs à exorciser déjà métaphysiquement, déjà intellectuellement, spéculativement, c'est-à-dire aller au-delà des mots, au-delà de la souffrance, voire exactement ce monisme prométhéen, au-delà de cette illumination, cette libération, voire la véritable aliénation et la véritable possession. Il faut donc tout repenser, mais de fond en comble, pas simplement extraire et mettre dans un autre système. Et puisque le professeur Pasqualucci disait, en terminant, il faut ne pas désespérer, évidemment, parce que face à cette tentative d'unification démoniaque, on sait que l'Église a les promesses de la vie éternelle et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je terminerai en disant que face à ces fausses valeurs, ces fausses ressemblances, ces apparences de ressemblance, il y a effectivement un effort d'exorcisme intellectuel à faire. Il faut tout repenser, de fond en comble, ou, pour faire plus court et plus efficace, tout repenser, tout restaurer, mais dans le Christ.
5 minutes.